Et le journal vous est donc présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. En Syrie, les inspecteurs internationaux attendent toujours de pouvoir se rendre à Douma pour enquêter sur l'attaque chimique présumée du 7 avril. À Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne appellent à la relance du processus politique pour mettre fin au conflit. Le projet de loi Asile-Immigration débattu à partir de ce soir à l'Assemblée, les opposants se sont rassemblés aux abords du Palais Bourbon. Une quinzaine d'universités toujours très perturbées, Nanterre est presque entièrement bloquée. Nous nous pencherons avec Hakim Kasmi sur la question des moyens dédiés à la réforme. Forme de l'accès à la fac. Et puis le Premier ministre canadien est en visite officielle en France, un voyage axé sur le climat et sur le commerce bilatéral. Y a-t-il des preuves d'une attaque chimique à Douma, en Syrie ? Pour l'instant, l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques est incapable de le dire. Elle n'a pas pu déployer sa mission d'enquête à Douma, près de Damas. La Syrie et la Russie invoquant des problèmes de sécurité. Les États-Unis font part de leurs soupçons. Ils suspectent la Russie d'avoir maquillé le site de l'attaque. Accusation sans fondement, répond Moscou. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni estiment les preuves suffisamment établies. C'est ce qui leur a permis de pousser une opération de représailles en Syrie. L'Union européenne leur apporte un soutien prudent. Les ministres des Affaires étrangères réunis à Luxembourg soulignent que le recours aux armes chimiques est inacceptable, mais ils aimeraient éviter une escalade militaire dans la région et appellent à relancer le processus politique pour mettre fin au conflit. Quentin Dickinson.
La ligne que les 28 se sont fixées aujourd'hui, c'est d'apporter leur soutien à toute action destinée à faire échec au recours aux armes chimiques et donc logiquement et explicitement aux frappes menées par leurs partenaires français et britanniques et par leur allié américain. Le communiqué commun permet donc de faire abstraction des réserves qu'ont pu entretenir quelques pays de l'UE sur l'opportunité ou sur le moment choisi pour effectuer ces opérations militaires, comme le rappelle le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
L'Union européenne et les États membres nous ont soutenus dans cette volonté de prévenir et de dissuader toute utilisation de l'arme chimique. L'Union européenne est donc unie dans un moment de grande gravité.
En même temps, les Européens entendent désormais privilégier l'action diplomatique d'envergure autour d'une initiative franco-allemande qui se donne pour objectif de réinsuffler vie et vigueur au processus de paix en Syrie, jusqu'ici plutôt moribond. Cela passe par des sanctions économiques à l'encontre du régime syrien qui viendront s'ajouter à celles déjà en vigueur sur les armes, sur les transactions financières, ainsi que sur les interdictions de séjour et le gel des avoirs de hauts responsables syriens. La future négociation devra impliquer tous les protagonistes, autres que les organisations terroristes, les Occidentaux n'ayant aucunement barre sur le régime syrien. Le bon vouloir de la Russie paraît plus que jamais incontournable.
À Paris, députés et sénateurs sont réunis pour un débat sans vote sur l'intervention française en Syrie, opération qu'Emmanuel Macron a qualifiée de réussie. En prélude au débat, le Premier ministre Édouard Philippe a justifié une nouvelle fois l'intervention.
Notre riposte était amplement justifiée dans ses causes. Dans ses modalités, elle a été soigneusement proportionnée. Des objectifs exclusivement liés au programme chimique, des objectifs exclusivement syriens. Elle a été ciblée pour éviter les dommages aux civils et conçue de façon à éviter toute escalade. Nous avons ainsi envoyé un message ferme, un message clair, un message fort. Nous voulons dissuader le régime de recourir à l'arme chimique, alors que des combats se poursuivent et que le régime en place ne montre aucun signe d'une disposition à rechercher une voie de sortie politique. Nous voulons dire qu'aucune victoire militaire ne peut impunément être remportée au moyen d'armes chimiques. Notre action, coordonnée avec celle de nos alliés, vise à rendre prohibitif le coût d'utilisation de ces armes et à amoindrir leur capacité à recourir de nouveau à de telles armes en atteignant leurs installations de production, d'assemblage et de stockage.
Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, met dans l'opposition, certains dénoncent une démonstration symbolique de force violant le droit international. Et pour Christian Jacob, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, les objectifs de la France en Syrie ne sont pas clairs.
J'ai cru comprendre que le départ de Bachar el-Assad n'est plus un objectif central de la France. Il faut nous le confirmer si c'est le cas, Monsieur le Premier ministre. Et si c'est le cas, pourquoi ne travaillons-nous pas à une solution partagée avec la Russie ? Je garde en mémoire la réaction du président Chirac quand en 2003, il a refusé que la France ne s'engage dans le bourbier irakien. Je le cite. S'affranchir, c'était les mots de Jacques Chirac, s'affranchir de la légitimité des Nations Unies, privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité. Nous pensons plus que jamais qu'il avait raison, car c'est une ligne constante de la diplomatie française. Il avait raison car un membre permanent du Conseil de sécurité doit respecter le droit international. Que dirons-nous quand d'autres interviendront sans mandat de l'ONU ?
Christian Jacob, le débat se poursuit avec d'autres prises de parole de l'opposition. Après le débat sur la Syrie, c'est la loi Asile et Immigration qui va être discutée à partir de ce soir à l'Assemblée nationale. Un texte qui suscite beaucoup d'opposition et même des tensions au sein de la majorité, puisque plusieurs députés de La République En Marche ont déposé des amendements. Hostile au texte pour d'autres raisons, la présidente du Front National, Marine Le Pen, se moque volontiers de ces propositions venant de parlementaires En Marche. Marine Le Pen au micro de Lucas Caltritti.
Il y a un certain nombre d'amendements des députés En Marche qui sont à tomber de notre chaise, quoi. On a envie de crier au fou. Il y a ainsi Monsieur Roussel qui, avec une quarantaine d'autres députés En Marche, a déposé un amendement pour ouvrir le droit d'asile aux personnes qui pourraient être affectées par le réchauffement climatique. Ben, ça part toujours d'un bon sentiment, hein. Le problème, c'est qu'il se base sur un rapport de l'ONU qui indique qu'il y a 143 millions de personnes dans le monde qui pourraient ainsi être touchées par le réchauffement climatique d'ici 2050. Ça va quand même faire du monde, il va falloir faire de la place. Donc on voit bien qu'il y a là un concours de ce que j'appelle le pire de la gauche, hein, qu'en réalité, s'étant présenté comme étant le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche il y a un an, Emmanuel Macron se révèle aujourd'hui être le pire de la droite et le pire de la gauche. Ce qui reste transpartisan.
Les sarcasmes de Marine Le Pen d'un côté, l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme de l'autre. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté aux abords du Palais Bourbon, des représentants associatifs, des avocats, des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme Johan Ancry, co-secrétaire du syndicat Asile à l'OFPRA.
On dénonce le fait que ce projet de loi il vise à restreindre l'accès à la procédure d'asile et qui vise à restreindre les droits des demandeurs d'asile tout au long de la procédure. Puisqu'en fait, on va réduire tous les délais de procédure, donc de moins en moins de temps pour faire ces démarches d'asile, moins de temps pour se préparer, moins de temps pour faire sa demande. Ça veut dire aussi moins de temps pour les personnes qui ont été victimes de traumatismes dans leur pays de pouvoir verbaliser correctement leur récit devant l'OFPRA. Le risque, c'est qu'une personne moins préparée, elle soit moins en capacité de convaincre les autorités de l'asile et donc qu'une protection ne lui soit pas accordée alors qu'au final elle le mériterait. Et puis il y a la question également du recours devant la CNDA qui va être réduit de 1 mois à 15 jours. Donc vous imaginez, quand vous n'êtes pas francophone, quand vous ne maîtrisez pas les rouages de la procédure, comment est-ce que vous faites pour rédiger un recours qui tienne la route et qui ensuite vous permette d'être en mesure d'obtenir l'asile devant la CNDA ?
La CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, et la CIMADE interpellent les députés. N'adoptez pas le code de la honte, leur demande l'association. Le texte prévoit donc de réduire le délai de dépôt de la demande d'asile, d'allonger la durée de rétention. Et alors que le projet de loi prétend renforcer la protection des réfugiés mineurs, il fait le contraire, selon Sarah Bellèche de la CIMADE.
C'est surtout ce qu'il n'y a pas dans ce projet de loi sur les enfants en rétention, puisque nous estimons qu'il faut interdire le placement en rétention des enfants. Il y a déjà beaucoup de pays européens qui ont abandonné cette pratique parce qu'elle crée des traumatismes très graves, parce qu'elle porte atteinte aux droits de l'enfant. La France ne l'a toujours pas abandonnée et nous, ce que nous demandons, c'est que cette réforme du projet de loi Asile et de l'immigration soit une occasion, justement, d'interdire le placement en rétention des enfants. La France a été condamnée à plusieurs reprises pour traitement inhumain et dégradant sur l'enfermement des enfants en rétention. Il y a beaucoup d'autorités administratives indépendantes qui se sont prononcées également. Et pourtant, la France continue à utiliser cette pratique alors qu'il y a d'autres possibilités pour expulser des familles que d'enfermer des enfants.
Sarah Bellèche de la CIMADE, au micro de Cécile de Carvaz-Douy. Comme Sibyl Veil à Radio France, le nouveau PDG de l'agence France Presse a pris ses fonctions ce matin. Mais l'arrivée de Fabrice Friis se fait dans un climat tendu. Les conditions de son élection jeudi dernier avaient été contestées par les salariés. Aujourd'hui, trois membres du conseil d'administration dénoncent à leur tour des pressions de l'État dans le processus de nomination. Bonsoir Antoine Moirette.
Bonsoir.
Dans un courrier adressé à la ministre, ils expliquent que le processus s'est déroulé de façon contraire à toutes les bonnes pratiques de gouvernance.
Effectivement, un coup de sang de ces trois membres du conseil d'administration de l'AFP, qui en compte 18, dont 5 personnalités qualifiées, indépendantes, pourrait-on dire, et parmi elles, trois ont fait part de leur mécontentement par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, petit rappel, le CA devait désigner son PDG sur trois tours. Emmanuel Hoog était candidat à sa propre succession, mais la veille du vote, du troisième tour, mercredi dernier, il reçoit un coup de fil de la directrice de cabinet de la ministre de la Culture pour lui signifier que Françoise Nyssen lui retire son soutien. Il jette l'éponge et le lendemain, le seul candidat restant, Fabrice Freys, est élu par défaut. Julia Cagé, membre du CA, est l'une des signataires de la lettre.
Ce qu'on dénonce, c'est que l'État n'a que 3 voix sur 18 au conseil d'administration de l'AFP. Donc l'État est minoritaire, il ne peut pas à lui seul choisir le PDG de l'agence. Et avec ce qui s'est passé la semaine dernière, l'État a fait en sorte, finalement, de pouvoir décider seul du futur de l'agence. Donc oui, on dénonce la mainmise de l'État sur le processus de nomination du PDG de l'agence France Presse.
Le ministère de la Culture reconnaît le coup de fil et le justifie de la façon suivante. Après étude des différentes candidatures, Françoise Nyssen en a conclu, je cite, « qu'aucun consensus ne se dégageait autour de la reconduction d'Emmanuel Hoog. L'État a donc souhaité lui faire part de sa position dans une démarche de transparence », fin de citation, et d'ajouter que la procédure de nomination proposée par le CA a été scrupuleusement respectée. Mais Julia Cagé dénonce une élection biaisée.
Il y avait une préférence très marquée apparemment de l'État pour M. Fabrice Freys, et plutôt que de permettre au conseil d'administration d'ouvrir les débats et d'entendre également d'autres candidats, finalement l'État a maintenu officiellement son soutien à Emmanuel Hoog jusqu'au dernier moment, et ensuite a fait en sorte qu'Emmanuel Hoog retire sa candidature afin de mettre le conseil d'administration au pied du mur. Le principe même de l'indépendance de l'agence repose sur un choix clair et indépendant en ce qui concerne son PDG, et là on a été mis au pied du mur puisque nous n'avions le choix qu'entre un programme, un homme et un homme. Il aurait au moins fallu en avoir deux.
C'est donc dans ce climat très tendu, dans son conseil d'administration et auprès de ses salariés, que Fabrice Freys a pris ses fonctions aujourd'hui pour 5 ans, normalement.
Antoine Marette, une quinzaine d'universités sont toujours très perturbées du fait de la contestation contre la réforme de l'accès à l'université. La quasi-totalité de la fac de Nanterre est bloquée face à l'occupation. La présidence de l'établissement a dû annoncer le report des partiels de la journée. Elle envisage plusieurs scénarios de report des examens, se dit prête à organiser les épreuves à l'extérieur de l'université. Nathalie Domenego est allée à la rencontre des étudiants.
Quelques dizaines de manifestants sont arrivés tôt ce matin pour bloquer les portes à l'aide de barrières et de chaînes, empêchant les étudiants venus passer leur partiel de rentrer à l'intérieur, d'où des réactions de colère.
On ne sait pas si nos examens, on va les avoir cette semaine, on ne sait pas comment nos notes elles vont se passer. Enfin, à la fin, c'est chiant, quoi. Enfin, on n'a rien demandé, nous. On a demandé à faire nos examens, on s'est pointé pour ça, il y avait toute la fac qui était là pour ça et au final on n'a rien.
Moi je défends totalement les réformes, mais on aimerait passer nos examens et c'est pas possible de nous bloquer comme ça.
Mais les avis sont partagés et le débat s'installe.
Personnellement, moi je suis pour ce blocage parce que je savais pas de quoi s'agissait cette loi avant d'assister à une assemblée générale. Parce que les lois elles passent tellement rapidement qu'on sait même pas de quoi il s'agit. Donc même si ça doit mettre en péril un semestre de ma scolarité, je préfère prendre le risque maintenant plutôt que me plaindre plus tard de cette loi.
Oui, de voir ces partiels annulés c'est dérangeant, mais la réforme elle l'est bien davantage, se disent-ils. À cause de la sélection qu'elle impose.
Les personnes pas sélectionnées, après, elles vont faire quoi? Ok, elles auront le bac, mais aujourd'hui, le seul taf qu'on a sans le bac, c'est pas en McDo, qui propose que des CDD, il y a un turnover de ouf.
Parce que maintenant, trouver un travail avec le bac, il y a quasiment aucune chance d'en trouver un.
Mariam, Océane, Souela et les autres attendent et observent la mobilisation des bloqueurs qui tentent de les rallier au mouvement. La fac ouverte aux enfants d'ouvriers, fermée à Monsieur Balaudet. Jean-François Balaudet, c'est le président de la fac. Il réclame sa démission depuis qu'il a appelé les forces de l'ordre sur le campus la semaine dernière.
À Strasbourg, les étudiants votent le blocage total de leur université à partir de demain. Certains présidents d'université soutiennent le mouvement et refusent de classer les demandes des futurs étudiants sur Parcoursup. C'est le cas à Lyon, Rouen, Bordeaux ou Pau. Beaucoup redoutent, on l'a souvent dit, une sélection à l'entrée à l'université. Mais une autre question importante à Kim Kassmi, c'est celle des moyens pour bien appliquer la loi.
Oui Aurélie, au-delà de la question des moyens, eh bien, se pose aussi la question de comment faire réussir ces élèves à l'université. Car la réforme de l'université, eh bien, elle va coûter cher. À commencer par l'année de remise à niveau pour les élèves de bac pro et techno, dont l'accès En licence, ce sera plus systématiquement automatique. Selon les syndicats, seulement un quart des facultés auraient les moyens de mettre en place cette fameuse année de remise à niveau. Puisqu'avec la réforme de l'université, eh bien, ces élèves devront avoir une année de remise à niveau qui va coûter cher, hein, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et selon, eh bien, les syndicats, le compte n'y est pas. Et ces élèves concernés seront notamment, eh bien, ceux des bacs pro et techno. Autre difficulté, eh bien, ce sont le nombre de places. Avec la hausse démographique, il y aura au moins 28 000 étudiants de plus à la rentrée, sauf que pour l'instant, le gouvernement, eh bien, ne trouve pas le financement et les places nécessaires. Pour l'instant, il n'y a que 19 000 places de financées. Résultat, même si le ministère prévoit des places supplémentaires dans les filières sous tension, comme STAPS et Psycho, il risque encore d'avoir des déçus à la rentrée.
Hakim Kasmi. Blocage toujours à Notre-Dame-des-Landes avec en face à face des occupants de la ZAD qui cherchent à reconstruire et des gendarmes qui cherchent à les en empêcher. Damien Triomphe sur place.
Pas de trêve à Notre-Dame-des-Landes. C'est un donné, un rendu, ou plutôt une destruction, une reconstruction. Avec les 3000 soutiens venus hier de l'extérieur, les zadistes sont parvenus à bâtir la structure, la charpente d'un lieu de vie détruit déjà 5 fois. La dernière, c'était la semaine passée. Ils ont travaillé hier et cette nuit, et ce matin, la charpente a été détruite.
La petite structure qu'on avait montée dans la nuit, c'est hyper triste. Moi, j'ai pleuré. Quand les blindés sont passés, on détruit les barricades, on voit tous les camions arriver, c'est hyper triste. Enfin, je sais pas, on l'a fait il y a moins de 24 heures. On a tous bossé dessus, on a tous fait en sorte que ça se passe bien. Et là, c'est juste absurde, en fait.
Il faut dire qu'ils étaient seulement quelques dizaines à la défendre ce matin face à plus de 150 gendarmes qui les ont dispersés à l'aide de grenades lacrymogènes et de véhicules blindés. L'attaque a été lancée avant 8 heures, s'est achevée vers 10 heures, une attaque à laquelle les zadistes s'attendaient.
Oui, on savait, en fait, on est des gens qui sont pleins d'espoir. Malgré un grand, grand désespoir profond qui nous habite face à la bêtise de l'État. C'est-à-dire que c'est lamentable. Il y a des destructions en continu face à des gens qui, sont dans la création et dans le fait de porter des choses pour l'avenir.
Alors ils essayent de rester motivés et ils restent ici, hein, sur ce chemin qui part de la Saulce, un croisement stratégique dans la ZAD qui relie les deux routes départementales, que les autorités tiennent à garder sous contrôle, mais encore une fois, côté zadiste, on veut tenir.
Tant qu'on ça tiendra. Enfin, là, ça compte plus que sur les forces vives qui sont là, quoi, mais non, c'est sûr, c'est éreintant.
C'est pas une question de nombre. C'est une question de philosophie.
Après, c'est ça, voilà.
C'est une question d'envie. Jusqu'à ce qu'il y ait communication et compréhension, ça durera. Voilà combien de temps ça durera.
Et comme pour le moment, aucun dialogue ne semble possible, en tout cas sur le terrain, les zadistes remontent leurs barricades chaque matin et poursuivent les reconstructions. Ils sont d'ailleurs d'ores et déjà au travail pour rebâtir le plus vite possible leur charpente.
Damien Triomphe à Notre-Dame-des-Landes dans ce contexte de tension sociale. Voilà un rendez-vous plus reposant pour Emmanuel Macron. Il reçoit le Premier ministre canadien Justin Trudeau en visite officielle en France. Les deux jeunes dirigeants partagent la même vision du commerce international. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait à Ottawa en juin prochain, juste avant l'ouverture du G7. Quant à Justin Trudeau, il a cherché à rassurer sur le traité de libre-échange CETA.
Oui, traité de libre-échange donc entre l'Union européenne et le Canada qui est entré provisoirement en vigueur en septembre dernier. Il suscite toujours des résistances, en France notamment. C'est pourquoi un partenariat franco-canadien sur le climat et l'environnement a été signé cet après-midi. Texte destiné à sécuriser les Français, toujours inquiets pour leur agriculture notamment. Mais pour le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le CETA est un bon accord dont les bénéfices sont déjà là.
C'est une occasion pour nous de travailler ensemble et déjà avec l'entrée provisoire de CETA depuis plusieurs mois, déjà on voit des investissements positifs pour les Canadiens, pour les Français. On voit la création d'emplois, on voit des opportunités pour vos agriculteurs à vendre plus de fromage au Canada, par exemple. C'est en train d'arriver déjà et j'ai énormément confiance qu'à cette étape de ratification, non seulement la France va être là, mais va démontrer le leadership au sein de l'Europe que tout le monde s'attend de voir de la France.
Justin Trudeau qui brandit la notion de commerce progressiste pour défendre cet accord. Selon lui, le droit des travailleurs mais aussi l'environnement sont respectés et ont même été menés à un niveau historique. Or, pour de nombreuses associations, notamment l'ONG Foodwatch en France, même amendée, ce traité ne respecte pas le droit des consommateurs et des citoyens, tout simplement parce que le principe de précaution qui existe en Europe n'y trouve plus sa place.
Anne Fauquemberg, et demain, Justin Trudeau sera le premier dirigeant canadien à s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Il fera très beau demain. Les nuages se concentreront sur l'ouest de la Bretagne et sur le nord du Cotentin. Les températures minimales 3 à 13 degrés. L'après-midi, il fera 17 à 24 degrés et jusqu'à 26 en Provence. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.